L'offrande de gâteau, Lévitique chapitre 2, chapitre 6, versets 7 à 16.
Lecture de la parole. Et quand quelqu'un présentera en offrande une offrande de gâteau à l'Éternel, son offrande sera de fleurs de farine, et il versera de l'huile sur elle, et mettra de l'encens dessus, et il l'apportera aux fils d'Aaron, les sacrificateurs. Et le sacrificateur prendra une pleine poignée de la fleur de farine et de l'huile, avec tout l'encens, et il en fera fumer le mémorial sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte, entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Et quand tu présenteras en offrande une offrande de gâteau cuit au four, ce sera de la fleur de farine, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, ointes d'huile. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit sur la plaque, elle sera de fleurs de farine pétris à l'huile, sans levain. Tu la briseras en morceaux, et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande de gâteau. Et si ton offrande est une offrande de gâteau cuit dans la poêle, elle sera faite de fleurs de farine avec de l'huile. Et tu apporteras à l'Éternel l'offrande de gâteau qui est faite de ces choses, et on la présentera au sacrificateur, et il l'apportera à l'autel. Et le sacrificateur lèvera de l'offrande de gâteau son mémorial, et le fera fumer sur l'autel. C'est un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Et le reste de l'offrande de gâteau sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte, entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu. Aucune offrande de gâteau que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car du levain et du miel, vous n'en ferez point fumer comme sacrifice par feu à l'Éternel. Pour l'offrande des prémices, vous les présenterez à l'Éternel, mais ils ne seront point brûlés sur l'autel en odeur agréable. Et toute offrande de ton offrande de gâteau, tu la saleras de sel, et tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu présenteras du sel. Et si tu présentes à l'Éternel une offrande de gâteau des premiers fruits, tu présenteras, pour l'offrande de gâteau de tes premiers fruits, des épis nouveaux, rôtis au feu, les grains broyés d'épis grenus, et tu mettras de l'huile dessus, et tu placeras de l'encens dessus, c'est une offrande de gâteau. Et le sacrificateur en fera fumer le mémorial, une portion de ses grains broyés et de son huile, avec tout son encens. C'est un sacrifice par feu à l'Éternel. Lévitique 6, versets 7 à 16. Et c'est ici la loi de l'offrande de gâteau. L'un des fils d'Aaron la présentera devant l'Éternel, devant l'autel. Et il lèvera une poignée de la fleur de farine du gâteau et de son huile, et tout l'encens qui est sur le gâteau, et il fera fumer cela sur l'autel, une odeur agréable, son mémorial à l'Éternel. Et ce qui en restera, Aaron et ses fils le mangeront, on le mangera sans levain, dans un lieu saint. Ils le mangeront dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, c'est leur portion que je leur ai donnée de mes sacrifices faits par feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice pour le péché et comme le sacrifice pour le délit. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est un statut perpétuel en vos générations. Leur part des sacrifices faits par feu à l'Éternel, quiconque les touchera sera saint. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils qu'ils présenteront à l'Éternel le jour de son onction. » Un dixième d'épha de fleurs de farine, en offrande de gâteau continuelle, une moitié le matin et une moitié le soir. Elle sera apprêtée sur une plaque avec de l'huile, tu l'apporteras mêlée avec de l'huile. Tu présenteras les morceaux cuits du gâteau en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur d'entre ses fils qui sera oint à sa place fera cela. C'est un statut perpétuel. On le fera fumer tout entier à l'Éternel. Et tout gâteau de sacrificateur sera brûlé tout entier. Il ne sera pas mangé.
Lecture de l'étude. Dans l'offrande de gâteau, il n'est question ni d'une victime égorgée, ni de sang répandu, ni de propitiation, ni de péché. L'offrande n'est pas offerte pour être agréée. Ce chapitre ne nous parle donc pas de la mort du Seigneur Jésus, mais de sa vie, de son humanité parfaite. C'est la perfection personnelle de Christ, objet et nourriture de notre cœur, mais avant tout, parfum de bonne odeur qui monte vers Dieu, qui a trouvé en lui toute sa satisfaction. C'est le dévouement absolu à Dieu de toutes les facultés d'un homme vivant ici-bas, son être tout entier offert à Dieu au long d'une vie de totale obéissance. L'offrande de gâteau était offerte ensemble avec l'Holocauste. Nombre chapitre 28 et chapitre 29. Dans le sentiment d'avoir été agréé en relation avec l'Holocauste, l'adorateur peut apporter l'offrande de gâteau, c'est-à-dire présenter à Dieu la vie parfaite de Christ, homme sur la terre, et s'en nourrir lui-même. Considérer la vie de Christ dans ses diverses perfections et la comparer à la nôtre serait sujet de découragement, l'écart est infini. Mais dans l'assurance d'avoir été agréés en lui, citation de J.N. Darby. Nous avons le droit de nous oublier nous-mêmes, d'oublier nos péchés, d'oublier toute autre chose que Jésus. Fin de citation. Le considérer ainsi dans la perfection des détails de sa vie devient alors une joie profonde pour l'âme et, envers Dieu, un sujet d'adoration toujours renouvelé. Chaque matin, chaque soir en Israël, on offrait et l'Holocauste et l'offrande de gâteau, nombre 28. Ne pouvons-nous pas, au début et à la fin de nos journées, rendre grâces à Dieu pour le Seigneur Jésus et pas seulement pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés avec lui? Mais souvenons-nous toujours que l'offrande de gâteau était une chose très sainte entre les sacrifices de l'Éternel faits par feu et devait être mangée dans un lieu saint. Tout ce qui touche à la personne de Christ, qu'il s'agisse de sa divinité ou de son humanité, doit toujours être considéré avec la plus grande révérence, sans y mêler aucune autre considération venant de nos propres cœurs. 1 Pierre 2, versets 21 à 24 nous montre cette union de la vie parfaite de Christ, modèle pour nous, et de sa mort expiatoire.
1 Pierre 2, versets 21 à 24. Car c'est à cela que vous avez été appelés, car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il n'a pas été trouvé de fraude, qui, lorsqu'on l'outrageait, ne rendait pas d'outrage, quand il souffrait, ne menaçait pas, mais se remettait à celui qui juge justement, et lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.
L'une ne peut pas être séparée de l'autre, comme beaucoup voudraient le faire, qui verraient en Jésus un modèle à imiter, mais voudraient écarter toute idée d'expiation dans son sacrifice. De telles pensées sont entièrement étrangères à la parole de Dieu. Élément de l'offrande de gâteau. La fleur de farine. La fleur de farine représente l'humanité de Christ, parfaite dans tous ses détails, tel qu'il a été sur la terre pour le bon plaisir de Dieu, dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection. Dans la fleur de farine, tout est fin, pur, blanc, égal. En Christ homme, tout était harmonie et aucune de ses qualités ne faisait saillie, comme c'est souvent le cas chez nous. Il pouvait à la fois user de grâce et reprendre le mal. Il savait consoler et corriger. Il savait comment se comporter dans la maison du pharisien et dans le foyer de Béthanie. il nous faut apprendre à voir la personne de Jésus, tel le baptiseur qui, regardant Jésus qui marchait, pouvait dire « Voilà l'agneau de Dieu ». Nous avons essayé, dans nos entretiens sur les cinq villages, de faire ressortir à travers les récits des évangiles quelques-unes de ces perfections de la vie de Christ sur la terre. Nous y renvoyons, sans reprendre ici les choses que nous y avons considérées. Nous ne pourrons jamais assez contempler la vie de Jésus de Nazareth, loin de l'Esprit Saint et de puissance, qui a passé de lieu en lieu, faisant du bien, et guérissant tous ceux que le diable avait asservis à sa puissance, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38. Dans les psaumes, nous apprenons à connaître les perfections intimes de son être, surtout dans le premier livre qui nous le présente « Homme sur la terre ». Affligé et pauvre, mais se proposant toujours le Seigneur devant lui, prenant son plaisir dans les saints, les excellents de la terre, persévérant dans son service, ne scellant pas la bonté et la vérité de Dieu dans la grande congrégation, parlant de sa fidélité et de son salut. Nous y voyons l'homme obéissant, dépendant, plein de confiance en Dieu, entièrement dévoué à sa gloire. L'huile. L'offrande était pétrie à l'huile et ou ointe d'huile, tel le Seigneur Jésus conçu du Saint-Esprit, puis oint du Saint-Esprit lors du baptême de Jean, et rempli du Saint-Esprit en commençant son ministère. Matthieu 1, verset 20. Luc 3, verset 22, 4, verset 1 et 14.
Matthieu 1, verset 20. Mais comme il méditait sur ces choses, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe, disant, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie, ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint. » Luc 3, verset 22. Et l'Esprit-Saint descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et il y eut une voix qui venait du ciel, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai trouvé mon plaisir. » Luc 4, verset 1er. Or Jésus, plein de l'Esprit-Saint, s'en retourna au Jourdain, et fut mené par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 14. Et Jésus s'en retourna en Galilée, dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit partout le pays d'alentour.
Sur les disciples, au jour de la Pentecôte, l'Esprit descendra comme des langues de feu. S'il devait être en eux la puissance de leur service, et celui qui les conduirait dans toute la vérité, il avait aussi chez eux à juger et purifier bien des choses. Que de pensées, de conceptions erronées, d'habitude doivent en nous être consumés par le feu de l'Esprit. Rien de tel en Christ. Aussi l'Esprit descendit-il sur lui comme une colombe, symbole de l'innocence, ainsi qu'il convenait envers l'homme parfait. L'encens. L'encens versé sur l'offrande de gâteau était entièrement brûlé sur l'autel. Il représente toute la satisfaction que Dieu a éprouvée dans la vie de son Fils sur la terre. Son nom est un parfum répandu. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 3.
Tes parfums sont d'agréables odeurs, ton nom est un parfum répandu. Jean 12, verset 3. Marie, donc, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum.
Tout ce qu'il faisait était pour Dieu et non pas pour l'approbation des hommes. Citation de J.N. Darby. Plus Christ était fidèle, plus il était méprisé et contredit, plus il était débonnaire, moins on l'estimait. Mais l'accueil qu'il trouvait ne produisait en lui aucune altération, parce qu'il faisait toutes choses uniquement pour Dieu. Devant la multitude, ou avec ses disciples, ou en présence de ses juges iniques, rien n'altéra la perfection de ses voies, parce qu'en toutes circonstances, il faisait toutes choses pour Dieu. l'encens de son service, de son cœur et de ses affections était pour Dieu et montait continuellement devant lui. » Fin de citation. Sous l'action du feu. Il plut à l'Éternel de le meurtrir, il l'a soumise à la souffrance. Ésaïe 53, verset 10. Que veulent dire ces mots? Pourquoi plut-il à Dieu de le meurtrir? Ce sont les profondeurs inexplorables du divin mystère. Dieu a donné son Fils unique. Mais il n'en reste pas moins que Christ devait être démontré parfait aussi dans la souffrance. Si dans son enfance, parfaitement soumis, dans son ministère, plein de compassion, il n'avait rencontré ni souffrance ni opposition, on aurait pu dire « c'est bien facile d'être parfait quand tout va bien ». Nous le savons par expérience, vivre avec des gens compréhensifs et agréables facilite tant de choses. Mais devoir jour après jour se trouver avec des personnes pénibles met à l'épreuve le chrétien le plus dévoué. Il fallait donc que l'offrande de gâteau fût soumise à l'action du feu, et cela de trois manières, au four, sur la plaque et dans la poêle. Le four nous parle des souffrances secrètes qu'a éprouvées le Seigneur Jésus dans sa vie. Que n'a-t-il ressenti à la vue du mal, de la mort? Il pleura. Il est méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face. Il est méprisé, et nous n'avons eu pour lui aucune estime. Ésaïe 53, verset 3. Nous rendons-nous compte de ce qu'a dû éprouver le Seigneur rejeté de son peuple? Lorsque nous faisons visite à un malade, ayant renoncé à une occupation plus agréable pour en trouver le temps, et que nous lui apportons quelques menus cadeaux, quelle est notre réaction s'il refuse de nous recevoir en disant « ce visiteur ne me plaît pas » Combien plus avait quitté le Seigneur de gloire pour venir au milieu de son peuple, et quelle bénédiction infiniment plus grande ne lui apportait-il pas? Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu. Souffrance de l'amour méconnu, ils m'ont haï sans cause. Pour mon amour, ils ont été mes adversaires. Et que dire de l'incompréhension de ses disciples? Comme nous l'avons vu, il avait commencé à leur parler de sa mort. Puis, sur la route, il avait essayé de nouveau de les enseigner à cet égard. Montant à Jérusalem, il les prend une dernière fois sur le chemin pour leur parler de ce qu'il attend, mais eux ne comprenaient pas. À Gethsémané, il prend les trois plus intimes, ceux qui avaient vu sa gloire, ceux qui avaient assisté à la résurrection de la fille de Jaïrus, et leur demande de veiller une heure avec lui. Mais ils s'endorment, et la voix triste doit leur dire « Ainsi, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi ». Son cœur, sans trouver d'écho, se refermait douloureusement sur lui-même. Psaume 102. Comme en témoigne le psaume, il a ressenti profondément la trahison de Judas. Et nous voyons, dans l'Évangile, la peine qu'il éprouva du reniement de Pierre, le regard qu'il dirige vers lui, tout en rappelant aux disciples l'amour inaltérable de son maître, en dit long sur la souffrance de celui-ci. Il a éprouvé douloureusement, comme homme, ce que signifiait la mort au milieu de sa vie. Il a abattu ma force dans le chemin, il a abrégé mes jours, j'ai dit « Mon Dieu, ne m'enlève pas à la moitié de mes jours » Psaume 102, versets 23 et 24. « Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure » Jean 12, verset 27. Et à Gethsémané encore, alors que dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang découlant sur la terre, il priait disant « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi. » La plaque nous parle des épreuves publiques qu'a subies le Seigneur. Nous le voyons homme fatigué, assis au puits de Sichar, ou dormant dans la nacelle, malgré la tempête. rentré à la maison, accablé de travail avec ses disciples, il ne pouvait pas même manger leur pain, car la foule s'assemblait de nouveau. Mais plus encore, tout le long de la route, il rencontrait la contradiction des pécheurs contre lui-même, l'inimitié des pharisiens qui allaient jusqu'à l'injurier et dire « Celui-ci ne chasse-t-il pas les démons par le chef des démons ?» Puis ce furent les coups et les crachats, le fouet et la croix. L'offrande cuite dans la poêle, correspondant peut-être à l'holocauste d'oiseau, semble présenter une compréhension plus vague et moins nette des souffrances de Christ, car nous entrons peu dans ce domaine, quoique les uns plus que les autres. Quelle que fût l'offrande présentée à l'autel, on en faisait fumer le mémorial, et toujours c'était un sacrifice par feu, une odeur agréable à l'Éternel. Dieu apprécie tout ce qui est de son Fils. Même si la compréhension que l'adorateur en a reste faible, l'offrande conserve cependant toute sa valeur par tout ce qui parle de lui. La part de Dieu dans l'offrande. Une pleine poignée de fleurs de farine et de l'huile avec tout l'encens. Dans toute sa vie, Christ était une offrande à Dieu. Adam, dans son innocence, avait joui des faveurs de Dieu. Il lui en rendait, ou aurait dû lui en rendre grâce, mais il n'était pas lui-même une offrande à Dieu. C'était précisément l'essence de la vie de Christ, d'être une offrande à Dieu, saint, essentiellement séparé de tout ce qui l'entourait, consacré à Dieu, vivant dans la puissance de l'Esprit. La part des sacrificateurs. Tout le reste était pour eux. Ils pouvaient se nourrir de cette parfaite offrande, mais devaient le faire dans un lieu saint, à l'écart des pensées et des bruits du monde, en se souvenant toujours que c'est une chose très sainte. S'occuper de Christ sanctifie et transforme à son image. Toute nourriture forme l'être intérieur. Assimilée en nous, elle marque la personnalité toute entière. Nous avons eu rencontré des hommes ou des femmes sur lesquels on dénote au premier regard qu'ils vivent dans la souillure. S'en étant nourris, y trouvant la satisfaction de leur être intérieur, petit à petit, leur aspect, leur visage, leur attitude en sont marqués. Ne peut-il pas en être de même du chrétien? Parce que Christ est dans son cœur, ne portera-t-il pas la joie et la paix sur sa figure? Contemplant la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Pas seulement la gloire du Seigneur dans le ciel, mais avant tout la gloire morale qui a brillé dans sa vie sur la terre. Il ne s'agit pas d'observer des règles et des ordonnances, mais d'être transformé par le renouvellement de notre entendement. Romains 12, verset 2, Éphésiens 4, verset 23. Œuvre intérieure opérée par la nourriture que nous prenons, sous l'action de l'Esprit, qui prend ce qui est à Christ et nous le communique.
Romains 12, verset 2. Et ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de votre entendement, pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bonne et agréable et parfaite. Éphésiens 4, verset 23, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement.
Au désert, chaque matin, le peuple ramassait la manne. Christ, pain vivant descendu du ciel, nourriture de son peuple dans la marche pour son encouragement et sa force. Dans le sanctuaire, les sacrificateurs se nourrissaient de l'offrande de gâteau, perfection de la vie de Christ, afin d'être rendus capables d'exercer leur service envers Dieu. Le souverain sacrificateur lui-même devait présenter continuellement, matin et soir, une offrande de gâteau particulière, entièrement brûlée sur l'autel. Tout son service était comme encadré par la perfection de Christ, marquée de son sceau. Lévitique, chapitre 6, versets 12 à 16.
Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « C'est ici l'offrande d'Aaron et de ses fils, qu'ils présenteront à l'Éternel le jour de son onction, un dixième des fas de fleurs de farine, en offrande de gâteau continuelle, une moitié le matin et une moitié le soir. Elle sera apprêtée sur une plaque avec de l'huile. Tu la porteras mêlée avec de l'huile. Tu présenteras les morceaux cuits du gâteau en odeur agréable à l'Éternel. Et le sacrificateur d'entre ses fils, qui sera oint à sa place, fera cela. C'est un statut perpétuel. On le fera fumer tout entier à l'Éternel. Et tout gâteau de sacrificateur sera brûlé tout entier. Il ne sera pas mangé.
Le levain et le miel. Tous deux étaient exclus de l'offrande de gâteau. Le levain nous parle de l'enflure de l'importance personnelle, de l'orgueil, de l'hypocrisie qui veut paraître ce qu'elle n'est pas. C'est le mal qui soulève la pâte qu'il corrompt. Il n'y avait aucun levain en Christ, mais il pouvait démasquer celui des pharisiens et des sadducéens. Aucun levain ne devait faire partie du mémorial de l'offrande offerte sur l'autel. Mais même ce que les sacrificateurs mangeaient ne devait pas être cuit avec du levain. Lévitique 6, verset 10.
On ne le cuira pas avec du levain, c'est leur portion que je leur ai donnée de mes sacrifices par feu. C'est une chose très sainte.
Combien facilement, dans notre appréciation de la vie parfaite de Christ, se mêlerait une importance personnelle, croire que nous en savons plus que d'autres, ou le danger de faire des phrases, de dire plus que l'on ne ressent, de répéter des lectures non digérées. Le miel nous parle des affections naturelles, des sentiments aimables de l'homme qui peuvent exister sans la vie de Dieu. De tels sentiments sanctifiés par la grâce sont désirables, même nécessaires entre nous, mais ils ne font pas partie des sacrifices. En particulier, la sentimentalité doit être exclue de l'adoration, et dans le service du Seigneur, des motifs mélangés, par exemple le désir de se trouver avec tel ou tel, n'a rien à y voir. Ce qui est à sa place dans la vie privée n'a rien à faire dans le sanctuaire. Le sel de l'Alliance. Le sel représente en première ligne la force préservatrice de ce qui est divin, la puissance sanctifiante qui nous tient séparés de la corruption. Le sel ne manquait pas dans la vie de Christ. Il exhorte aussi ses disciples à avoir du sel en eux-mêmes. Combien l'ambiance sera différente là où se trouveront deux ou trois croyants qui n'ont pas peur de montrer leur couleur et de rendre témoignage pour le bien et contre le mal. On n'osera pas, tant qu'ils sont là, se comporter comme en leur absence. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, assaisonné de sel. Colossiens 4, verset 6. Mais le sel de l'Alliance nous fait penser aussi à la fidélité nécessaire aux relations que Dieu a établies avec les siens dans l'économie où ils se trouvent. La vie doit être mise en accord avec l'offrande. Il faut avoir le désir de refléter Christ et non contredire, par notre marche, nos paroles et nos louanges à son sujet. Sans doute, ressentirons-nous toujours combien loin nous sommes de la vraie offrande de gâteau. Mais ce qui compte est la décision du cœur. Parlerons-nous en belles phrases de tout le dévouement de Christ aux intérêts de son Père, de son obéissance à sa volonté, de ses compassions et de sa bonté pour, l'instant d'après, nous montrer durs et méchants envers nos frères et poursuivre exclusivement nos intérêts personnels. Tu ne laisseras point manquer sur ton offrande de gâteau le sel de l'Alliance de ton Dieu. Puissions-nous vraiment nous nourrir de cette offrande de gâteau? On enseigne aux enfants les récits des évangiles. On raconte les miracles du Seigneur et les paraboles qu'il a prononcées. Tout cela est à sa place, mais se nourrir de lui dans sa vie parfaite est autre chose. Il faut le voir avec les yeux du cœur. Il faut sentir en son âme un peu de ce qu'il a ressenti. Il faut, en quelque mesure, entrer dans la communion des souffrances de l'homme de douleur. Dans l'humilité profonde, suivant ton obscur chemin, tu fus méprisé du monde, toi qui lui tendais la main. Toi, dont l'amour secourable, compatissant et parfait, sur l'humanité coupable, versa bienfait sur bienfait. Oh, quel trésor il nous ouvre, ton cœur plein de charité! Dieu lui-même n'y découvre que lumière et sainteté.